sur le dernier point, la veritatis splendor, l'introduire, je voudrais faire avec vous trois lectures du développement de la personne. Comment grandir dans sa personne. On voit bien que c'est un âge où les questions affectives sont là, les questions sociales sont là, c'est des questions de construction, de croissance. Ce que je fais, est-ce que je le fais pour ma croissance ou est-ce que je le fais pour ma vocation, voyez. Entre guillemets, quand je suis amoureux, est-ce que je suis amoureux pour moi-même, pour grandir et m'épanouir, ou est-ce que je suis amoureux pour me donner et donc pour m'engager. C'est toujours cette période-là qui est une période où on apprend à aimer pour se connaître, mais aussi on apprend à aimer pour se donner, pour aimer. Donc il faut trois clés de lecture. Trois clés de lecture de la croissance de la personne. Donc d'abord, une relecture historique du concept de personne. C'est bête à dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne, voyez. Donc je vous ai mis au tableau une clé de lecture de saint Augustin qui dit simplement, voilà, une personne a un corps, pas de problème, on en a parlé. Une personne a une âme. Dans cette âme, il y a des puissances stables et instables. Dans une âme, il y a des puissances stables et instables. Qu'est-ce qui en vous est toujours en mouvement? Voilà. Vous avez quatre puissances en vous. Donc, quatre puissances en vous qui bougent tout le temps. C'est quoi? Vous avez quatre puissances de votre âme qui vont bouger tout le temps. Ça va s'agiter tout le temps. Donc, il faut voir après comment se positionner. Qu'est-ce qui bouge tout le temps? Généralement, pour les dames, c'est l'imagination. Hein? Il y a pas mal d'imagination, vous êtes d'accord? Hein? Parfois, un petit fait, ça y est, c'est parti. On refait le monde. Voilà. Il m'a regardé, ça y est, on se retrouve en robe de mariée. Ah ben ouais, il m'a regardé en robe de mariée, mais il n'y a pas de lien. Moi, il m'a regardé, je suis en robe de mariée. Ça va parfois un peu vite, quoi, voilà, un peu vite. Donc on est plutôt de ce côté-là. Donc vous avez l'imagination, qui n'est pas mauvaise si ça ne devient pas l'imaginaire. Ensuite, vous avez les souvenirs. Les souvenirs, ça va, ça vient, c'est toujours en mouvement. Hein. Essayez de contrôler vos souvenirs, vous êtes en train de prier, vous pensez à il y a 15 ans, il y a 20 ans, voilà. Les souvenirs, ça se balade avec une puissance, voilà. Ensuite, vous avez bien sûr l'affectivité. Chez certains, chez certaines, ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Parfois, ça fait des tsunamis. Donc, il ne faut pas qu'il y ait le Japon en face. Hein. Sinon, c'est catastrophique. Donc, attention, voilà, à l'amplitude de la sinusoïde. Donc, vous réglez votre cosinus, votre sinus, et puis ça fait une courbe plus ou moins stable. Donc, vous voyez, imagination, mémoire des souvenirs, affectivité, et on pourrait dire sensualité. Cette sensualité qui va être liée à l'affectivité, on voit bien que notre corps, il y a une puissance en nous d'exprimer de manière sensuelle sa personne. C'est pas mauvais, parce que ça exprime notre capacité d'être sensible à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être en empathie, voilà. On pourrait dire plus que sensualité, plutôt une sensibilité, voilà. Une sensibilité qui peut dériver de manière un peu négative dans le sensualisme. Ça, heureusement ou malheureusement, vous ne pourrez jamais parfaitement maîtriser ça. Donc il faut faire un deuil. Vous ne pourrez jamais maîtriser parfaitement votre imagination, votre mémoire des souvenirs, votre affectivité et votre sensibilité profonde. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez donc faire avec ça? Ça, c'est très intéressant. Par contre, si vous ne pouvez pas maîtriser ça, vous pouvez l'orienter vers ce qui est toujours stable en vous. Alors, qu'est-ce qui est toujours stable en vous en termes de puissance, de faculté? Trois facultés, toujours stables. Et c'est là, c'est ça qui, à partir de là, que vous allez vous construire en profondeur. Donc trois facultés en vous toujours stables, c'est l'intelligence, la volonté et la mémoire de l'être. L'intelligence, vous pouvez toujours réfléchir en n'importe quelle situation. C'est quelque chose qui est stable en vous. Si vous voulez réfléchir, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez toujours poser un acte volontaire, aussi petit soit-il. Voilà. Hein? Alors, même quand on est déprimé, au cœur même de sa déprime, on peut toujours poser un petit acte de volonté. Pas un grand, mais un petit. Hein? Petit acte. Et quant à la mémoire de l'être, c'est la mémoire de votre dignité. Vous êtes beaucoup plus, vous valez beaucoup plus que ce que vous avez fait. Vous êtes digne. Voilà. Moi, deux fois par an, je vais en prison. Je vais célébrer la messe en prison, une prison avec des prisonniers de longue peine, 20, 30 ans. Hein? Et bon, la pédagogie de l'aumônier, c'est de leur dire toujours vous êtes digne. Ils ont tué, ils ont violé. Hein. 30 ans, c'est clair. Hein. Il faut, on a tué 30 ans. Donc on passe l'après-midi, on est 80, et voilà, on leur dit profondément, on célèbre la messe, votre dignité est plus profonde. Voilà. En même temps, il faut demander pardon à Dieu pour les actes que vous avez commis, pour les conséquences. Mais votre dignité est plus forte. Voyez. Dans notre histoire, il y a des choses entre nous qu'on ne se pardonne pas. Et parfois, ça peut commencer tôt qu'on ne se pardonne pas. Voyez. On est beaucoup plus que ce qu'on a pu faire. Voilà. Voilà. Donc on a une dignité qui est très très grande. Je peux même pousser, même des grands tyrans peuvent avoir une très grande dignité. Ils valent plus que ce qu'ils ont fait. Bon, dans le film... vous avez vu le film La Chute, hein? Vous voyez donc les 40 derniers 8 heures de Hitler. Et vous voyez que cet homme qui a des tendances un peu hystériques, mégalo, parano, très bien. Mais sur le fond, il est capable de grande gentillesse. Avec ses secrétaires, tout ça, hein, il est très gentil. Et c'est l'histoire racontée par sa secrétaire des dernières heures d'Hitler. Donc ça semble être un témoignage authentique. Donc même cet homme-là, voilà, il était très gentil. Il pouvait être très gentil. Mais il était fou. Bon, c'était fou. Donc ça, vous voyez, une anthropologie qui va nous rappeler que corps, âme, esprit, âme, faculté instable, stable, et esprit, l'esprit a les facultés stables, et au cœur, c'est la présence du Père, du Fils, Saint-Esprit. Voilà. Et dans sa manière de penser, analogique, Augustin va dire que ce qu'on appelle la trinité psychologique, il fait une analogie psychologique, les trois puissances stables pour nous expriment le reflet de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en nous. Voilà. C'est sa manière de voir. Voilà. Donc voilà une approche d'Augustin. Donc après, le concept de personne au plan historique. Le concept de personne au plan historique, c'est d'abord, on a découvert qu'une personne, c'est un individu. Progressivement, c'est émergé dans la société le fait que le groupe, le clan, la collectivité, même la cité, n'absorbe pas l'individu. Vous voyez ? Et on voit bien, c'est toute la tension dans laquelle, de certaines parties, vous êtes, vous sortez d'un climat familial enveloppant qui a fait votre histoire et progressivement vous affirmez votre individualité. Moi, c'est moi, voilà, hein, et vous dites à votre père, mademoiselle, papa, moi c'est moi et toi, tais-toi. Tu es toi, mais tu te tais. Voilà, c'est un jeu de mots. Voilà. Voilà. Papa, toi, moi je suis moi et toi, tais-toi. Pour être moi-même, il faut que tu te taises. Voilà, il faut que le père se lâche sa fille. C'est pas facile pour les pères de lâcher leur fille. Bien sûr, c'est pas facile. Deuxièmement, pour garantir cette individualité, hein, c'est affirmer des droits. C'est les droits de l'individu. Et historiquement, les droits de l'individu ont émergé, beaucoup avec la modernité, hein, la Renaissance, etc., notamment à travers la question de la propriété. Pour garantir l'individu, il faut lui donner des droits qui l'empêchent, qui lui donnent la possibilité de vivre. C'est la propriété, mais c'est aussi les droits civils et politiques, le droit de vote, le droit de penser, de s'exprimer. C'est toutes les grands textes de l'habeas corpus et du Bill of Rights des Anglais. C'est eux qui ont fait émerger les premiers grands textes de la protection de l'individu. Donc l'individu a des droits. Donc j'ai besoin d'avoir mes droits, de vivre selon mes droits. Voilà. Ensuite, la personne, c'est une personne en relation. Voilà. C'est une personne, voilà, la capacité d'être en relation. D'être en relation avec le plus grand nombre. Voilà. Et là, ça engage non seulement l'affectivité, mais la sociabilité. Voilà. Je suis fait pour être en relation. La relation appartient à l'essence de la personne. Voilà. Et le quatrième point qui est le plus important, c'est la vocation. La personne est elle-même lorsqu'elle est, elle s'inscrit sous le registre d'une vocation. Elle se sent appelée à une excellence d'elle-même. Voilà. Elle se sent appelée, voyez, parce qu'il la transcende, à savoir la présence de Dieu, et en même temps le don d'elle-même qui va faire qu'elle va se dépasser dans le don d'elle-même. Et les trois attitudes qui vont porter ça, c'est de comprendre que la personne s'inscrit dans la temporalité, c'est-à-dire qu'une personne grandit lentement. Mesdemoiselles, messieurs, un amour s'agrandit lentement. Et je vais vous raconter une belle histoire d'amour. C'est un garçon et une jeune fille, à 15 ans, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Mais c'était des garçons qui priaient beaucoup. Alors le garçon et la fille priaient. Et bien sûr, dans leur cœur, ben, le Seigneur leur a dit, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Les années avancent, etc. Bon. Ils se retrouvent à 18 ans, c'est encore beaucoup trop tôt. Et puis dans le cœur du garçon naît, mais moi, je veux rester simplement ami, je crois que je serai prêtre. Il dit ça à la fille. Bon, ça fait jamais plaisir à la fille. Non, c'est comme ça. Et regardez, 30 ans après, 20 ans après, ils deviennent tous les deux religieux. Mais par des biais différents. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont une connivence incroyable. Quoi. Au niveau de l'amitié, ça reste bien sûr de l'amitié spirituel, mais il y a une qualité d'écoute et de correction aussi fraternelle, une exigence pour l'autre qui est très belle. Vous voyez, en 30 ans, on a accepté de ne pas aller trop vite, ça prend, et le Seigneur après a travaillé, il a étoffé le désir, il a accompli le désir, et voilà qu'il y a un fruit au bout de 30 ans qui est visible, et puis une belle relation de confiance, sans concession. Voilà. Très intéressant. Voilà. La temporalité, ça prend du temps. Vous voyez, l'amour naît toujours de l'amitié. Donc à nouveau, hein, je rebondis sur ces belles histoires d'affectivité qui sont dans vos cœurs, c'est normal. Hein. Prenez le temps de construire de belles amitiés. Une belle amitié, c'est quoi? C'est un dialogue profond sans engager le corps. C'est tout simple. C'est un dialogue profond sans engager le corps en faisant des choses ensemble. Avec d'autres. Que si on n'est que l'un en face de l'autre, ça ne marchera pas. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Hein. Donc, temporalité, l'attitude, c'est la transcendance. C'est-à-dire qu'on est à la fois unique et ouvert à celui qui est unique. Voilà. La personne se déploie sous l'horizon de la temporalité, du temps, de l'histoire, de la transcendance, c'est-à-dire de tout ce qui le dépasse. Hein, le regard de Dieu. Et ensuite, l'expression, c'est en fin de compte, il faut qu'elle accepte de rentrer dans un chemin d'exode. C'est-à-dire de partir à l'aventure. Bon, j'ai mis exil, mais c'est plutôt exode. Hein? Et en fait, c'est l'exode de quoi? C'est l'exode du don de soi. Apprendre à se donner selon une promesse qu'on ne maîtrise pas, mais on va se donner, et de plus en plus on se donne gratuitement. Voilà. Voilà une première manière de voir la croissance de la personne, affirmer son individualité, défendre ses droits. Ses droits pour vous, c'est quoi? C'est être capable de vivre en société de manière autonome, au travail, vos diplômes, de l'argent. Il faut être capable d'autonomie. En élargissant de plus en plus votre réseau de relations et sous le vocable d'une vocation, de toujours vivre en étant appelé à, sous le regard de Dieu, et bien sûr en répondant à cet amour de Dieu par le don de vous-même. Quels sont les 6 besoins fondamentaux? Une autre manière de voir, donc première voie, Saint-Augustin, puissance stable, puissance instable. Et présence de Dieu au fond de nous-mêmes. Deuxième manière de voir, plus historique, on pourrait détailler, c'est très intéressant, détailler. Après, les besoins fondamentaux de la personne.